Et salut à tous, mais non pas en ciné. L'émission n'évoque pas l'actualité ni les sorties ciné de la semaine sur Radio Campus Amiens. En effet, à notre programme, pas d'actu ciné de la semaine ni de sortie de la semaine, car c'est un hors-série enregistré en live à l'occasion de l'Assemblée Générale Radiophonique de Radio Campus Amiens 2026.
Ouais,
ouais, un peu d'applaudissements s'il vous plaît.
Ouais,
quand même, un peu d'ambiance quoi. Allez. Un épisode hors série en feat avec Thomas de l'émission New Game Plus. Salut Thomas.
Salut Gaël, comment ça va?
Eh ben ça va très bien, j'allais te poser la question.
Ah mais je te prends de court, je suis comme ça.
Ah, j'aime beaucoup, merci beaucoup. Dans lequel du coup on parle des liens intrinsèques qui lient le jeu vidéo et le cinéma pour l'éternité, entre rares adaptations réussies et nombreuses ratées envers des licences cultes, mais aussi des jeux dont les créatifs ont compris l'essence même de ce qu'est le langage cinématographique et d'autres carrément pas. Pour revenir sur ces diverses adaptations, Adam, j'adore ça. Adam,
qu'est-ce que ça te va bien.
Journaliste pour Fucking Cinéphile, Littérate ou encore La Steam Illusion est de retour. Salut Adam.
Salut Gaël, comment ça va?
Eh ben ça va très bien, t'es content d'être là?
Ouais.
Ouais, bah moi aussi, super. Alors bon, ça est parti quoi. Et du coup, comme j'avais dit, bah du coup, il y a Thomas de New Game Plus qui est avec nous durant ces 45 minutes où nous parlons ciné en live et jeux vidéo aussi, du coup, avec beaucoup de spoilers peut-être sur les films ou jeux qu'on va traiter. Donc, on vous conseille de voir les films et de jouer aux jeux en question avant de nous écouter quand même. C'est peut-être un peu mieux. Voilà.
Absolument.
Pour cette émission spéciale, excuse-moi, il faut que je t'introduis. Désolé, excuse-moi, c'est le métier. Pour cette émission spéciale, on inverse les rôles. Thomas est donc venu nous apporter un ou plusieurs films directement inspirés du jeu vidéo et qui inspirent de ses spécificités. Moi et Adam sommes venus du coup avec des jeux vidéo se revendiquant du cinéma pour voir ce que l'un apporte à l'autre. Commençons d'abord du coup par Thomas. Quel est selon toi du coup Thomas, quel film réussit à transposer au cours d'une séquence, par exemple un élément purement vidéoludique ou qui ne réussit pas du tout cette transition aussi?
J'ai décidé de me concentrer plus sur le positif et globalement j'ai un petit peu changé la mission parce que pour cette superbe chronique collaborative, en effet c'était de trouver des films qui s'inspirent du monde du judo en soi, un sujet qui me semblait assez vaste. Alors qu'en vérité c'est un choix à la fois grand mais pas facile. Le cinéma et le jeu vidéo sont deux arts qui s'inspirent sur certains points l'un de l'autre et en effet on a tendance à beaucoup les opposer, un peu bêtement on va pas se mentir, mais ce sont deux univers bien distincts qui ont beaucoup à partager. Et c'est avec cet objectif que j'ai cherché des films qui se sont inspirés du jeu vidéo. Alors évidemment, il y avait un écueil dans lequel je ne voulais pas tomber. Il s'agit des films tirés de licences dont je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler de Mario Bros, de Mortal Kombat pour faire, et bien figurez-vous que le film Minecraft The Movies, et bien c'est inspiré du jeu vidéo Minecraft. Ça n'intéresse personne, c'est honnêtement pas intéressant et même un peu stupide. Du coup, à la place, je suis allé chercher des moments spécifiques de films où le 7e art fait écho au 10e. Et pour ça, le moyen le plus simple de faire référence aux jeux vidéo dans un film, pour moi, c'est quand même en prenant l'un des angles, les plus emblématiques de ce genre. Je parle évidemment de la vue à la première personne. Et cet angle permet pas mal de choses, notamment au niveau de l'immersion. Prenons par exemple Alien 3, le film. Le xénomorphe poursuit l'un des personnages dans une séquence de course poursuite dans un endroit un peu labyrinthique. Et soudainement, nous voyons l'acteur fuir. Nous sommes dans un moment où il y a énormément de cuts, la tension monte. Et soudainement, nous voyons à travers les yeux, bon, yeux, le xénomorphe n'a pas d'yeux, mais vous avez l'idée. Oui. Nous voyons à travers la perspective du xénomorphe. Nous voyons l'acteur courir, nous sommes dans son dos et nous voyons le prédateur lentement se rapprocher de la proie. Justement, ça permet de mettre une tension qui est honnêtement assez intéressante. Et je sais que c'est la première fois que je voyais un film utiliser ce moment-là. C'est que j'ai pas une aussi grande culture du film que vous. Mais c'est la première fois où, en tout cas, ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est très jeu vidéo, mais ça marche vachement bien. J'ai de l'attention pour cet acteur, notamment quand on voit le xénomorphe qui se rapproche lentement dans son dos. On sent la tension qui monte. J'avais adoré. Petite anecdote, c'est ensuite le monde du judo qui reprendra l'idée. On peut notamment penser à Rayman 3, où la caméra sera placée dans la bouche du monstre qui vous poursuit. Et encore aujourd'hui, l'un des moments les plus terrifiants dans un jeu vidéo pour enfants qui aura traumatisé toute une génération pour l'anecdote. La première personne sera aussi utilisée dans de nombreux films d'horreur plus ou moins à succès. Je pense notamment à Projet Blair Witch, qui utilise un style qui deviendra célèbre, le found footage. Le film est entièrement visionné et filmé en première personne. Nous visionnons les rushs de la caméra qui aura été retrouvée un peu sous la forme d'un documentaire. Mais bon, une fois de plus, en fin de compte, c'est le jeu vidéo qui s'inspira de Blair Witch et de son style horrifique si particulier. Prenons par exemple des titres comme Pity, Outlast ou encore Visage, qui ne cachent pas une certaine inspiration pour ce genre de méthode pour filmer. Pour en finir avec le point de vue à la première personne, car je ne voulais pas faire que ça, des films qui s'inspirent plus explicitement de l'univers du jeu vidéo, je pense à Hardcore Henry, Tout le film est une ode au FPS, au jeu d'action, à la première personne, ainsi qu'un petit peu au beat'em all. Et même dans son scénario, les références aux vieux jeux vidéo sont peu nombreuses. On peut notamment penser à l'objectif. Le héros doit sauver sa demoiselle en détresse prise par une armée de vilains. C'est très vieux jeu vidéo. Pensez vieux jeu vidéo, pas vieux. C'est très vieux jeu vidéo. C'est un petit accent du sud qui est monté. C'est très vieux jeu vidéo. On peut penser à Mario Bros, évidemment, Prince of Persia, les anciens, ou encore Shadow of the Colossus, sauver sa dulcinée dans le monde du jeu vidéo, c'est un grand classique. Bien qu'on le voit de moins en moins, il arrive beaucoup et maintenant de nos jours il est un petit peu changé. On pense par exemple à The Last of Us, il y a toujours de l'affection, il y a toujours cette idée, mais c'est pas pareil. Le film baigne dans des idées du jeu vidéo. On peut penser à l'une des scènes cultes du film où, attention spoiler, face à l'antagoniste qui lui fait face et qui lui a tiré dessus, Hardcore Henry décide de tacher le mur de sang et de marquer EZ dessus, donc Easy, Good Game Easy, une provocation très connue par les gamers qui jouent à des jeux multijoueurs, c'est pour simplement se moquer. Donc voilà, le film n'hésite pas, le film est assez déjanté et va dans ça et en profite. Maintenant, éloignons-nous un petit peu de cette première personne pour aller dans des films qui ont des inspirations, qu'on va dire, plus ou moins plus subtiles, ou en tout cas où l'entièreté du film n'est pas basée dessus. Je pense notamment à une scène de fight, enfin de combat plutôt, dans John Wick 4, dite le top-down, où nous surplombons l'action et la scrutons depuis les airs. Et comment ne pas penser au jeu Hotline Miami dans l'angle de la cam, la virulence des combats, la musique et même les changements d'armes intempestifs. Tout y fait penser, l'inspiration est claire et respecte énormément le matériel de base. Et en plus, dans cette scène, John Wick chauffe le chien. Donc tout va bien.
Tout va bien. Tout va bien.
Petit aparté rapide sur le cas Ready Player One, car oui, le film s'inspire énormément du 10e art. En effet, c'est une ode et une déclaration d'amour de la part de Spielberg au monde du jeu vidéo. Il y a nombre d'easter eggs, évidemment, de références. Je ne vous les citerai pas. Je vous conseille de regarder le film, il est très sympa. Et c'est un film qui respecte plus ou moins ce qu'il fait. Je sais que certains gamers n'ont pas aimé, mais que voulez-vous, on a les puristes qu'on mérite. Mais bon, le film reste, c'est Spielberg aime le jeu vidéo, il vous le montre, il vous le dit, vous le verrez.
C'est un chef-d'œuvre absolu.
Oh, et puis, Spielberg a indirectement créé Medal of Honor. Donc,
Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais parce qu'en fait c'était trop long et je voulais faire un peu court. Je me suis dit que si on leur parle le film et le jeu vidéo pendant 5 heures, déjà on va mettre tout le monde en retard et c'est pas pratique, surtout qu'elle a un train à prendre. Donc,
Merci de me cibler, c'est gentil.
C'est gentil.
Donc en gros, si vous êtes pas content, c'est parce que Gaël m'a forcé à faire vite, bien évidemment. Oh. Toutes les plaintes pour lui. Et enfin, d'autres films tirent légèrement du beat'em all, un genre de jeu où grossièrement, c'est plus que ça, des vagues d'ennemis se jettent sur le héros ou l'héroïne. Et par exemple, on peut penser à certaines scènes de King Bean volume 1 ou encore Death Proof. Cela dit, le réalisateur dont je tairai le nom réfute s'être inspiré du jeu vidéo et aurait plutôt tiré ses séquences du cinéma de genre japonais des années 70, mais enfin, cinéma qui tirait lui-même ses inspirations du jeu vidéo. On a un petit peu une boucle, mais il ne semble pas être un grand fan, ce réalisateur, contrairement à Spielberg, du monde du jeu vidéo. Il n'a pas l'air très très fan. Bref, on arrive déjà à la fin de cette chronique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et messieurs, avant d'embarquer de votre côté, est-ce que vous, il y a un moment comme ça qui vous vient en tête, peut-être?
Un moment qui du coup...
Vous dites, ça fait jeu vidéo.
Peut-être la vue en FPS dans Doom.
Oui.
Ouais. Mais en fait, tu te dis, ça fait jeu vidéo, mais pas dans le bon sens.
Et pas dans le bon sens.
Vous avez le droit de prendre du négatif, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup concentré sur le positif. C'est l'ambiance, mais en soi oui, il y a beaucoup de négatifs. On n'a pas cité certains films à la Monster Hunter ou ce genre de choses, Resident Evil, qui ont des sacrés coups durs. J'aime peut-être te voler ce que tu allais dire du coup.
Après, non mais parce que moi j'aime bien la saga, moi il y a certains opus que j'aime bien parce que c'est Paul W. Anderson, il fait des nanars. Non, moi je vais aller sur le positif. Moi c'est un film d'adolescence que j'aime encore aujourd'hui un peu, qui fait très GTA dans l'esprit, c'est Hypertension.
Ah oui, oui.
C'est Hypertension de Brian Tyler et son frère, son duo, je sais plus comment il s'appelle l'autre, c'est Mark, je crois, donc Mark Newark. Mais Hypertension, en fait, c'est juste Jason Statham qui doit survivre, en fait, parce qu'il peut être victime du coup d'un arrêt cardiaque s'il s'arrête. C'est presque un peu comme Speed. Mais du coup, ce qu'il doit faire, en fait, c'est par exemple voler le vélo d'une grand-mère. Il doit se pourchasser par la police. Et donc, du coup, hypertension fait penser à GTA. Et du coup, bah, sa liberté que tu peux, bah, que GTA donne aux joueurs, c'est-à-dire bah, tu peux littéralement jouer un roleplay où tu peux essayer d'être le gangster un peu gentil, ou alors tu peux littéralement voler les voitures, te faire poursuivre par la police et tout. Donc pour moi, ouais, je dirais hypertension et peut-être la... Ouais. On réclamait depuis des années une adaptation de GTA, mais GTA est très inspiré des jeux. Moi, Vice City, c'est Scarface, quoi. Donc, oui. Ça sert à rien. Donc, plutôt, ouais, de voir comment est-ce qu'un dans le côté série B, on arrive à créer un moment de cinéma, parce qu'il y a des idées de partout, dans la manière dont on filme Statham faire plein de trucs, et en même temps reprendre une idée de l'open world, ce qu'on appelle du coup le monde libre du coup de GTA, quoi.
C'est ça qui est assez intéressant, parce que c'est quand même je sais qu'il y a ce truc de constamment l'opposition des combats sur des forums, ce genre de choses. Il y a une opposition entre dans ah, ça c'est mieux, on a une meilleure immersion, ouais, mais non, on a le meilleur réalisateur. Ce genre de stupidité, du coup, c'est bien qu'on prenne un petit peu de positif et qu'on rassemble plus que d'assembler, oui. C'est beau.
C'est vrai.
Et du coup, messieurs, ouais. J'ai envie de savoir maintenant. Moi, je suis curieux, ça fait des semaines que j'y pense à cette chronique, je n'en dors pas la nuit.
Il faut dormir quand même.
Plus jamais, je ne dors pas tant que les 30 ans ne sont. Et du coup, messieurs, qu'avez-vous choisi?
Eh bien, écoutez, si le cinéma s'est emparé rapidement du jeu vidéo, c'est également le cas de celui-ci, avec des réussites et des échecs dans la transposition du 7e art au sein du médium vidéoludique. Et pour toi, Adam, quel jeu vidéo réussit du coup cet exercice de transposition du cinéma au cœur du gameplay, de sa mise en scène, son histoire, ou les trois en même temps, si tu veux pas faire concis et que, tu veux que je rate le train. Mais vas-y.
J'avais hésité entre Yakuza 3 et Death Stranding, mais finalement, je veux parler de Death Stranding, en fait. Yakuza 3, c'est juste une particularité, c'est que tu peux gérer un orphelinat, comme dans Sonatine de Takeshi Kitano.
Ah ok, oui c'est vrai.
Donc voilà, c'est pour ça. Mais du coup, vu que c'est qu'une partie du gameplay, les aspirations du coup du film de gangster japonais, c'est plus dans les cinématiques et l'histoire, donc c'est pas plus intéressant. Non, je vais plutôt partir sur Death Stranding, du coup, de Hideo Kojima, ce fameux Kojima. Kojima. Du coup, qui, pour moi, en fait, quasiment Death Stranding, c'est une adaptation de Jerry de Gus Van Sant. Ah, tu t'y attendais pas,
ok, celle-là. Ah ouais, là j'avoue que bien joué, ok, oui. Donc, côté très contemplatif,
Voilà, pour resituer, du coup, Jerry de Gus Van Sant, sorti en 2002, si je m'abuse, 2001-2002.
Oui,
du coup, on suit Matt Damon et Casey Affleck dans un désert et ils marchent. Voilà.
C'est vraiment ça la proposition
du film. Vraiment, c'est une proposition radicale de Gus Van Sant. Et du coup, dans Death Stranding, on suit du coup Norman Reedus, qui s'appelle du coup Sam Porter Bridges, ça ne s'invente pas comme nom, du coup, qui doit reconstruire l'Amérique du coup, en livrant des colis. Ouais. Voilà. Du coup, tu es un livreur Amazon. non, mais du coup, bah, dans ces deux pitchs-là que je viens de faire, évidemment, l'intérêt principal, c'est la balade. Du coup, le fait de marcher dans des territoires très grands. Jerry, du coup, c'est le désert. Et Death Stranding, c'est inspiré de l'Islande, quoi, en gros. Bon, l'Amérique est quasiment transformée en Islande géant. Mais en plus, pourquoi je fais ce parallèle-là? Parce que Gus Van Sant avait dit que Jerry lui était venu quand il a joué à Tomb Raider. Le D'accord. premier Tomb Raider, voilà. Il aimait plus, comment la caméra suivait le personnage de Lara Croft déambuler dans les lieux où elle devait chercher ses trésors.
Ouais, il est sympa parce que la caméra des premiers Tomb Raider, c'est pas non plus.
Non, mais du coup à la troisième personne la caméra et comment est-ce que du coup ça orientait le joueur et comment le joueur devenait le metteur en scène. Parce que Gus Van Sant a une particularité. Le seul texte qu'il a écrit dans sa vie, c'est le seul texte théorique qu'il a écrit, c'est que la caméra pour lui c'est juste une machine.
Mais c'est un cinéaste très théoricien.
C'est un cinéaste très théoricien et du coup, moi, est-ce que Hideo Kojima a vu Jerry? Je pense que oui. Il est cinéphile et qu'il est ami avec pas mal de gens, parce que dans Death Stranding on retrouve Nicolas Refn, Léa Seydoux, Norman Reedus, Guillermo del Toro. Dans le 2 on a George Miller qui passe une tête.
Oui, donc, c'est vraiment, clairement, c'est un gros cinéphile qui veut se faire un gros plaisir, ne serait-ce qu'avec son casting.
C'est un truc mais c'est aussi à base un concepteur de jeu cinéaste raté, hein, parce qu'il a tenté de faire une école de ciné, mais il s'est un peu planté. Donc voilà. Mais en fait, l'intérêt, c'est que pour moi, là où il réussit, c'est qu'il réussit à retranscrire du coup cette sensation de Jerry, de se balader où la caméra. Bon, on peut dire que la caméra est libre dans Jerry, mais c'est quand même Gus Van Sant qui choisit les plans. Là, c'est le joueur qui choisit de gravir cette montagne ou non, on va passer à côté. Donc, en fait, l'orientation de la troisième personne permet vraiment au joueur de se libérer de la contrainte qui est le cinéma, en fait.
C'est marrant que tu parles de Kojima, parce que j'ai parlé de Pity tout à l'heure. C'est vrai que Kojima, il a, comme tu disais, il est très cinéphile et il a vraiment ce lien entre cinéma et jeu vidéo qui se fait particulièrement avec ce gars-là, dans le sens où le jeu vidéo, c'est ce mec est une légende, genre c'est on peut le voir même dans Cyberpunk, je suis en train de penser là, c'est, oui. Il est partout, mais c'est vrai que Kojima fait beaucoup le lien, que ce soit dans Pity, dans Death Stranding, ouais, et même dans ses autres jeux, Metal Gear Solid, j'ai hésité à en parler sur certains points, parce qu'il y a des choses qui font penser au cinéma, pas de bol, ah oui, c'est pas moi qui vais parler de jeu, mais Metal Gear Solid pouvait passer dans une de nos chroniques pour en parler de ce lien qu'il fait aussi, genre Kojima c'est limite sa patte, c'est l'une de ses pattes, parce qu'il a plusieurs cordes à son exercice.
Oui, voilà. Mais pour moi, c'est celui qui sait servir d'une manette pour retranscrire en fait sa dimension cinéphile, quoi. Donc voilà.
Et justement, du coup, tu parlais de Death Stranding, et justement, il faut citer l'excellente bande originale.
Oui.
Il y a une excellente bande originale qui regroupe plusieurs morceaux de plusieurs groupes différents, d'artistes différents, et qui, en fait, c'est des morceaux que tu peux carrément entendre pendant que tu es en train de marcher dans le jeu, et tu as même le titre et l'artiste qui s'affiche à l'écran, oui. Au cas où tu veux aller sur Spotify. Non, mais je trouve que c'est un truc, c'est quand même quelque chose, une manière de faire qui est peu commune dans le jeu vidéo, et ça fait très cinéma quelque part aussi, parce qu'il y a plein de BO qui sont remplis, qui font très plaisir Spotify avec beaucoup de groupes et d'artistes déjà connus.
On appelle le clip show au cinéma.
Le clip show, mais lui c'est le bon clip show d'une certaine manière dans Death Stranding 1. Et du coup, je propose qu'on écoute un petit morceau de la bande originale, parce qu'on est quand même une émission de musique, de cinéma. Enfin, je veux dire, voilà, le cinéma c'est aussi la musique, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Du coup, un petit morceau du coup avec Low War, du coup, qui nous chante Don't Be So Serious. Voilà, tout de suite sur Radio Campus, Amiens. Musique. Pardon, excusez-moi. Non. Du coup, c'était un extrait de Low World, le groupe Low World, du coup, Don't Be So Serious, extrait de la bande originale de Death Stranding d'Hideo Kojima, premier du nom. Le jeu, pas Hideo Kojima. Oui, je sais pas s'il a un titre, peut-être qu'il est sœur, je sais pas, quelque part.
Peut-être, ouais.
On sait jamais, vu que c'est Dieu, quasiment. J'ai pas fait encore le 2. pour le coup.
Le 2 est bien, du coup c'est Wookie à la BO.
Il y a Wookie dans le 2, oh, ouais. Oh, c'est un régal ça. Ça devrait être trop bien. Mais du coup, qui dit réussite dit également échec. Oui. Voilà. Et maintenant, c'est à mon tour d'apporter non pas un seul jeu, mais un studio entier se revendiquant du cinéma dans ses propositions tournées autour de la narration, à savoir le tristement célèbre studio Quantic Dream, avec à sa tête son cinéaste raté. Tu parlais de cinéaste raté dans le cas de Kojima, je trouve que t'es gentil. Enfin, c'est un cinéaste raté. Enfin, c'est un cinéaste raté qui a réussi quelque part dans le jeu quand même à apporter une dimension très cinématographique. Là, on va parler de David Cage. Je sais pas, il aime qu'on dit Cage apparemment, ouais, pour Cage. Pas, peut-être pour pas être en concurrence avec Nicolas Cage directement, je sais pas. Mais voilà, David Cage, ou de son vrai nom pour les intimes, David Granola. Ça s'invente pas, que voulez-vous. Je comprends qu'il a changé. Voilà. Mais du coup, ce sont des jeux qui sont, ont vraiment été très mis en avant sur le fait notamment que c'est une expérience de cinéma, voilà, que c'est une expérience de narration incroyable, notamment avec la manette, les QTE, etc. Et tout. Le QTE qui est quand même quelque chose qu'on retrouve quand même régulièrement dans beaucoup de jeux récents qui ont beaucoup de narration, des jeux solo notamment, voilà, les Spider-Man de Insomniac Games par exemple, ou même
Dispatch,
oui, Dispatch, qui apparemment est très très bien.
Exceptionnel, j'ai adoré.
Il paraît que c'est super, mais là du coup ça c'est la bonne version, tu vois, même Life is Strange, il y a des QTE, pardon, j'ai tapé le micro, je suis trop emballé. Life is Strange, il y a des QTE, mais je trouve que, ou des choix, mais je trouve que c'est intéressant dans la manière dont c'est écrit, parce que c'est du teenage movie, ça marche bien, la BO est bonne, enfin, il y a des choses bonnes.
Dans les moments bons, il y a Telltale.
Ouais, par contre, Telltale, ouais, ça, c'est beaucoup moins bon. Mais par exemple, je trouve que, voilà, notamment pour citer par exemple le premier jeu de Quantic Dream, c'est Eevee Rain. Eevee Rain, dont il me semble qu'on a un petit extrait de la bande-annonce en régie. J'aimerais bien un petit extrait de la bande-annonce de Eevee Rain.
Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils ? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir.
Mars, est-ce que vous pouvez confirmer que votre fils est
disparu ? Que votre fils est encore vivant ?
C'est le tueur aux origami ?
C'est une possibilité.
Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origami.
Je m'appelle Madison Page, je suis journaliste.
Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose.
Agent Norman Jadon du FBI, dites-moi ce que vous savez.
Dan Mars souffre d'un problème psychologique depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort.
Voilà, vous avez eu un petit florilège de tous les personnages que vous incarnez dans le jeu vidéo de Quantic Dream, sorti en... Ouh, ça fait un petit temps, je crois, il me semble, en 2009 au moins.
2009, ouais, 2010.
Ouais, dans ces eaux-là, on est un peu au début de cette vague un peu que Quantic Dream va un peu imposer, de ces jeux, notamment Eevee Rain, mais aussi Beyond Two Souls, Detroit Become Human plus récemment, où ce sont des jeux en fait qui se revendiquent du coup très narratifs, très cinématographiques, avec des références très appuyées au cinéma, même un peu trop. C'est-à-dire que quand on joue à Eevee Rain, par exemple, on pense tout de suite à Seven, avec cette pluie battante qui tombe. Il pleut tout le temps là dans ce jeu, tout le temps. À chaque fois, il pleut. La BO fait très Howard Shore quand même, dans le sens où c'est vraiment quasiment les mêmes sonorités. Le tueur aux origami, bon, il fait quand même très... il fait très Seven aussi, quoi. Il fait très Zodiac. Enfin voilà, je veux dire, c'est quand même... Voilà. Alors, j'ai rien contre le fait qu'on se revendique comme très influencé par le cinéma dans un jeu. Au contraire, il y a des jeux très bons qui font ça. Mais là, c'est trop appuyé. Et un truc vraiment où on sent que derrière la caméra, David Granola, Cage, n'a pas envie de faire un jeu, il veut faire un film. Mais le problème, c'est qu'il s'adresse à des gamers. Et le truc, c'est que bah, des gamers, quand tu leur mets dans les mains et que tu leur dis juste appuie sur croix, ça peut être un peu frustrant. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, un petit peu.
Moi, alors, le seul que j'ai fait parmi ces jeux, j'avais fait Beyond Two Souls, mais il y a trop longtemps, j'en ai très peu de souvenirs. Et j'ai fait plus récemment Detroit Become Human.
Ouais.
Et je trouve que ça c'est point fort comme c'est point faible.
Oui,
point
ça s'améliore.
Quand je fais la lessive, est-ce que j'ai besoin de faire 4 QTE parce que Kara est en train de faire la lessive?
Exactement.
Est-ce que j'ai envie de cliquer sur tous les boutons de ma manette pour mettre le petit vanish anti-action au fond du tambour? Pas tellement.
Mais c'est véridiquement ça ce qui se passe en jeu quand même.
Les
vrais choix, les vrais combats, tu vois.
Genre, faire une série de 10 QTE parce que je mets le vanish, c'est pas super fun.
C'est pas super, non.
C'est là où Détroit s'en sort mieux, enfin s'en sort bien. C'est que je mets. C'est. Comment dire ? Il y a une tension à ce moment-là qui fait que du coup j'avais l'idée de me dire ok, il me force à prendre du temps à mettre ma machine à laver en route parce qu'il y a une petite tension dans le personnage. Honnêtement, des fois, c'est trop. J'ai vraiment dû plier du linge. Non. Je rentre chez moi, je fais ma lessive, je lance un jeu, je me tape une lessive à faire, je suis en mode... Il y a deux tensions qui se créent entre la manette et la chaise et entre le jeu. Donc, il y a des fois, c'est trop. Mais j'ai quand même honnêtement apprécié Detroit Become Human. Ouais. Et en fait, dans ces jeux-là, en fait, moi, tant que tu me donnes une dimension de choix qui est respectée, où j'ai la sensation de faire mes choix, je vois une différence par rapport à un film. Là où dans certains, et notamment j'ai parlé de Telltale, où j'ai beaucoup de mal avec ces jeux, car je fais des faux choix qui n'avancent en rien, et à la fin, ma fin sera la même que tout le monde, avec 2-3 changements, mon t-shirt il sera pas de la même couleur parce que j'en ai pris un orange et pas un vert, ça c'est pas un jeu vidéo, c'est un film interactif, il n'y a pas de souci, mais il faut dire que c'est un film interactif.
Voilà, il faut faire la différence entre film interactif et jeu interactif, en fait. Enfin jeu.
Mais j'ai aimé Détroit, je veux pas attirer dans...
Ah non, Détroit ça va, moi je trouve encore.
Détroit c'est celui où je me suis... Il y a quelque chose que j'ai aimé. Là où c'est vrai que je pensais aussi à L.A. Noire, que j'ai aimé.
Oui, de Rockstar Games, oui.
Ouais,
oui,
que j'ai aimé, mais qui est quand même différent. Mais par contre, Beyond Two Souls, j'avais pas trop aimé. Et celui d'avant dont j'ai oublié le nom.
Heavy Rain, du coup.
Heavy Rain, exactement. Plus lourde, je n'ai pas fait. Du coup, je
Plus
ne pourrais
lourd,
pas
c'est
dire.
Compliqué. Dans son titre québécois. non, mais plus lourde, du coup, Irène, je vais appeler Irène, c'est sérieux, mais c'est un
déjà
problème.
Déjà qu'il y a Granola.
Déjà qu'il y a Granola, Granolax.
De Daï Granola.
Ouais, ça commence à devenir difficile.
Ça devient compliqué à défendre. Non, mais moi, le fait que dans le jeu, on fait quand même jouer le pire père du monde, c'est-à-dire que vraiment, le jeu est persuadé de faire une leçon de paternité parce que littéralement, tu égares ton enfance dans un centre commercial. C'est quand même un truc, voilà, et tu passes pendant toute une séquence à appuyer sur un QTE pour crier le nom de ton fils et tu dis Jason, c'est quand même assez terrible. Et puis, une demi-heure après, dans le jeu, du coup, après le trauma d'avoir perdu son premier fils, son deuxième fils se fait du coup enlever par le tueur parce qu'il n'a vraiment pas de chance, ce pauvre monsieur, dans le parc à enfants. Voilà, 10 minutes, hop, enfin, même pas 30 secondes, il a une absence. Un peu commun chez les pères de famille quand même, mais voilà, il a une absence. Et puis d'un coup, il se retourne, le fils n'est plus là. Et là, on a toute une séquence où, pareil, QTE pour dire Sean! Parce que le deuxième fils s'appelle Sean. C'est quand même terrible. Voilà. Non, mais c'est le genre
c'est
de
devenu
jeu.
Un mème. Hein. C'est devenu un
c'est
mème.
C'est devenu un mème. Sean. C'est devenu un truc vraiment que les gamers se sont tous moqués de ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment. Même dans une interview d'Aika, j'ai dit à chaque fois je veux que le joueur se sente immergé dans mon histoire. Et tu te dis bah oui, mais le truc, c'est que je sais pas si ça m'immerge vraiment de créer le nom du fils du personnage. Alors qu'à côté, des The Last of Us, par exemple, chez Naughty Dog, on est sur quelque chose qui est bien plus immersif et bien plus prenant émotionnellement parlant, ne serait-ce qu'avec un prologue où pourtant, concrètement, tu joues ton personnage, tu le guides, et pourtant il y a même une certaine liberté dans le choix de la caméra par exemple, et je me sens bien plus immergé alors que j'ai pas un QTE à faire pour dire le nom de
le gameplay est mille fois plus profond, hein.
Oui,
et
aussi.
Pourtant The Last of Us c'est pas non plus le gameplay le plus profond de l'histoire,
non,
mais à côté c'est exceptionnel,
c'est le chef d'œuvre, quoi.
Ah, clairement,
on parle d'un chef d'œuvre là, clairement.
Ouais,
j'avoue que là je suis peut-être un peu dur dans la comparaison. Voilà, bon, en comparaison la Life is Strange, il y a quand même un moment donné où tu choisis aussi entre pancake ou gaufre au petit déjeuner et tu peux te demander aussi si ça a vraiment une incidence sur l'histoire. Je crois pas d'ailleurs, non, ça n'a pas d'incidence.
Elle digère moins bien et du coup
du coup elle n'arrive pas à gérer son pouvoir de remonter dans le temps et du coup c'est problématique.
C'est compliqué.
Voilà. Je sais pas si vous avez un truc à dire. Adam, est-ce que tu as un truc à dire sur David Granola?
David Granola,
David Cage,
moi je serais, tu disais pas tirer sur l'ambulance, mais moi je serais encore pire. C'est-à-dire que ça serait bien aussi si les scénarios étaient bien écrits. C'est-à-dire qu'on a affaire pour Heavy Rain à un téléfilm France 3. À Beyond Two Souls, un film à flashback très mal monté.
Oui.
Detroit Become Human, il a lu Asimov et puis il a fait ouah, c'est trop bien. Voilà, c'est tout.
Oui.
Faut pas le dire.
Il y a une scène de révolte avec Xandri, on dirait un mauvais Spike Lee aussi.
Ouais, c'est un très mauvais Spike Lee. Ouais. Alors que les derniers Spike Lee c'était déjà pas très bien. Donc.
Ah oui, il a fait un chaud. La pente, du coup, un peu.
Non, mais c'est peut-être le pire en fait dans l'exemple, c'est que comme tu disais, tu dois appuyer 4 boutons pour faire ton vanish, quoi. C'est pas fun. c'est vraiment, j'avais quasiment oublié ce moment, quoi. Puis surtout, en fait, c'est des jeux qui te disent. Le gamer va réfléchir. Et puis en fait, moi, c'est des trucs très basiques que, en fait, ça aiderait si tu pouvais jouer avec la manette. Death Stranding, par exemple, moi, évidemment, c'est encore une relecture en fait de Roland Barthes, quoi. Mais au moins, tu as la manette pour interagir quand Norman Reedus est en train de tomber sur un caillou, quoi.
Oui.
Là, tu dois appuyer sur croix.
Et c'est un jeu où c'est dur de marcher aussi.
Oui.
Dans Death Stranding, t'as vraiment ce truc de moi, je sais que quand j'y ai joué, c'était parfois très frustrant parce que vraiment, t'as ce sentiment que quand tu marches, tu portes du lourd du coup sur toi et que du coup, tu peux facilement tomber, tu peux faire tomber tes caisses et tes caisses peuvent péter. Enfin, c'est un truc vraiment où c'est presque endurant de jouer à ce jeu. Moi, il y a des moments où je sais que Death Stranding, parfois, quand j'avais fini de jouer, j'avais l'impression que j'avais fait ma journée de livreur Amazon et que vraiment, j'étais fatigué. C'est pour ça que le jeu s'est fait surnommer le jeu du livreur FedEx. Enfin, voilà, il y a eu plein de mèmes là-dessus aussi, mais bon, voilà. Mais
C'est marrant parce que le point commun que je vois par exemple entre Détroit et Death Stranding, c'est qu'ils ont aussi un peu ce côté, c'est pas le bon mot mais j'arrive pas à le trouver, ce côté un peu méta de on veut te faire réfléchir le gamer. Genre je me souviens par exemple Détroit, il y a ce truc quand vous finissez, quand vous arrivez à ce moment potentiel de la révolte, il y a le personnage qui est dans le menu qui vous parle à vous directement, le joueur, et qui vous donne des choix un peu profonds. Est-ce que vous m'autorisez à partir, est-ce que vous ne m'autorisez pas à partir, ce genre de choses, pour vous mettre une petite tension sur vous. Et un petit peu aussi dans Death Stranding c'est différent. Je sens que par exemple, alors c'est pas bien, mais moi je fonctionne beaucoup avec les mèmes, et le même où il secoue le bébé comme ça là et tout, je suis en mode le côté secouer un bébé pour faire pleurer, pour éloigner les bons, c'est pas bien, mais moi ça me fait un peu rigoler. Aussi Kojima et les pieds, je peux pas m'empêcher d'en parler, ce genre de truc aussi avec les pieds où il demande aux actrices d'avoir des plans parfaits sur leurs pieds 3D et tout, parce que les pieds Kojima. C'est vrai que je suis passé de ce côté méta au pied de Kojima.
Oui, mais
je suis un peu passé du coq à l'âne, parce que mais il y a ce côté où qu'est-ce qui fait que ce que vous avez aimé dans Death Stranding qu'on vous donne envie de penser et que vous n'avez pas aimé par exemple dans un Detroit Become Human ou Heavy Rain ou ce genre de choses, qu'est-ce qui est pour vous la ligne?
Je dirais que moi Death Stranding n'a pas besoin de me faire faire des QTE ou de me faire faire des choix de dialogue ou d'action ou de lessive vanish pour citer dans Heavy Rain, tu vois. Il n'a pas besoin de faire ça en fait pour m'impliquer émotionnellement avec son personnage ou avec ses personnages en fait, je trouve.
Du coup c'est peut-être un petit peu dans l'écriture si je m'avance.
Oui.
Parce que je sais que par exemple moi dans Dispatch il y a des moments où vous allez faire des QTE. Alors les QTE sont quasiment uniquement pour les combats, mais il va y avoir des scènes du coup de basiques qui vont du quotidien que votre personnage traverse et vous le traversez avec lui et qui m'ont pas du tout dérangé là dans ce cas-là. Ouais. Est-ce que c'est vraiment pour moi le problème? Est-ce que pour vous, est-ce que ce serait du coup vraiment au niveau de l'écriture, de la manière dont se fait les personnages?
Oui, c'est plus l'écriture en fait qui en fait chez Quantic Dream est très caricaturale parce que littéralement David Cage est vraiment un cinéaste raté. Enfin, c'est vraiment un gars qui ne sait pas écrire. Concrètement, que ce soit Heavy Rain, Beyond Two Souls, même si dans Beyond Two Souls t'as Elliot Page et William Dafoe en tête d'affiche, le jeu était beaucoup vendu là-dessus. Mais concrètement, même Détroit, tu prends ces jeux-là, tu les mets au cinéma en tant que film. Ces films-là vont se faire désinguer. C'est-à-dire que ce sont des films où on dira c'est mauvais dans l'écriture parce qu'en fait c'est très caricatural et ça a été déjà vu mille fois. En fait, c'est quelqu'un qui est quand même persuadé de réinventer la roue et l'eau chaude à chaque fois, alors que non, concrètement. Et
dans Détroit, t'as quasiment une séquence où tu incarnes l'androïde, il doit aller au fond du bus.
Wow. Oui, c'est pas subtil.
Ce niveau-là, c'est quand même pas non-subtilité.
Très subtil. On est sur
un critique de cinéma, il voit ça au cinéma, il défonce le film parce que ça a déjà été vu 10 millions de fois, quoi.
C'est ça.
Et surtout que du coup, qu'est-ce qui serait plus adapté pour parler de ce jeu? Ce serait des critiques de jeu ou des... Bon, ça existe à peine, mais des critiques de jeu ou des... Bon, on va pas rentrer sur ce sujet.
Le métier de testeur.
Un testeur de jeu, mais un vrai, pas YouTuber, s'il vous plaît. Bref, ou un critique de cinéma, parce qu'il est entre les deux, il est un peu le cul entre les deux chaises, ces jeux-là.
C'est des jeux qui parfois sont traités par certains critiques comme des œuvres de cinéma, un peu. Parce qu'on va plus parler de l'écriture et de la mise en scène que du gameplay. Concrètement, parfois, il n'y a pas de gameplay, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça le truc. Et moi, pour moi, un jeu qui peut arriver à être cinématographique tout en ayant un excellent gameplay. Naughty Dog, par exemple, pour les reciter. Mais il n'y a pas que, mais voilà, mais il y en a plein comme ça.
Ah, Naughty Dog, c'est un peu le point Godwin.
J'avoue que là, j'ai été un peu fort.
Ça fait un moment qu'ils n'ont pas échoué, eux. Ouais. Enfin, si, s'ils arrêtent de sortir 850 fois le même jeu avec 3 pixels de plus, mais ça, c'est le capitalisme,
de cette génération PlayStation, notamment. Mais je propose que ça soit le mot de la fin, voilà, le point Godwin.
Le point Godwin, le capitalisme, super.
C'est un très bon mot de la fin. Pour
et les pieds de Kojima.
Oui, les pieds de Kojima, tout à fait. Et c'est ainsi que s'achève cette partie du live, en crossover, à l'occasion de l'Assemblée Générale Radiophonique de Radio Campus Amiens 2026 avec New Game Plus. Merci. Merci.
Mais merci à vous, merci de l'invitation.
Merci d'avoir été avec nous. Merci Adam d'avoir été de nouveau fidèle à ton poste, comme toujours.
Je t'en prie,
comme d'habitude.
Un plaisir.
On fait notre promo juste à l'instant, comme ça, avant de partir. Lundi soir, deuxième partie de notre mensuel consacré à Christopher Nolan à l'occasion de la sortie de l'Odyssée. C'est à 20h. Soyez nombreux à l'écoute. On a beaucoup bossé pour ces mensuels et on en est très fiers. Voilà. Et merci à vous, du coup, chers auditeurs, d'avoir été de nouveau fidèle à votre poste pour nous écouter là où nous parlons ciné. Salut à tous et à la semaine prochaine, du coup, et bon live, bonne suite de live à tous. Voilà. Salut.
Salut.
Salut.